Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission mensuelle de Sortir du nucléaire, Drôme et Ardèche. Aujourd'hui, nous accueillons Raphaël Granvaux autour de son livre « Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire ». Mais avant cet entretien, Agnès et Georges, nos deux billettistes, vont nous faire un petit tour d'horizon de l'actualité. Agnès, vous souhaitez aujourd'hui nous parler du nouveau gouvernement et des conséquences sur la politique énergétique de la France.
Bonjour. Donc le président Hollande, pendant sa campagne, a promis de fermer la centrale de Fessenheim et de baisser de 25% la production d'électricité nucléaire à l'horizon 2025. Ça nous laisse 13 ans. Quelle part pour les économies d'énergie et quelle part pour les énergies renouvelables ? Ça n'a pas été précisé. Il a nommé comme ministre de l'écologie Nicole Bricq, qui peut être considérée comme une spécialiste des finances publiques et de l'écologie, et qui connaît déjà ce ministère puisqu'elle a été avec Ségolène Royal. Ni pro ni anti-nucléaire, elle va devoir préparer le débat citoyen sur l'énergie et prévoir le démantèlement de 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim. Son directeur de cabinet, quant à lui, est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique. Il affirme clairement sa position et son désir de sortir du nucléaire. Pour lui, le nombre de réacteurs nucléaires atteignant 40 ans en 2025 impose la fermeture de 24 d'entre eux. Pour lui, c'est la seule position responsable. Il est également contre la construction de nouvelles centrales, pensant que cet argent investi dans les énergies renouvelables pourrait créer de nombreux emplois. Jérôme Guibert précise que cela permettrait de sortir d'une situation considérée comme absurde par de très nombreux économistes, puisque le nucléaire est utilisé pour le chauffage en grande partie pendant l'hiver et que c'est une énergie très coûteuse et que nous devons aussi l'utiliser pendant l'été, ce qui n'est pas très logique. Espérons qu'il pourra se faire entendre dans ce gouvernement où les supporters du nucléaire sont très nombreux.
Mais alors Agnès, ce gouvernement n'est pas seulement constitué de gens qui s'occupent de l'écologie, il y a aussi d'autres ministères qui nous intéressent, les antinucléaires.
Alors il y a deux ministres qui sont clairement antinucléaires, donc les ministres écologistes. Cécile Duflot, ministre du Logement et de l'Égalité des territoires, sur qui nous comptons pour faire des économies d'énergie et un programme volontariste d'isolation des bâtiments. Elle pourra aussi compter sur Pascal Canfin, qui est ministre du Développement et qui a 37 ans, député européen et journaliste, a à son actif plusieurs livres et de nombreux travaux sur les finances et l'écologie.
Merci Agnès. Alors Georges, vous vouliez nous parler, vous, de Fukushima un an après. C'est à partir notamment d'un document publié par Science et Avenir en mars 2012.
Oui, tout d'abord un rappel des faits. Suite à un séisme de magnitude 9 le 11 mars 2011 au nord-est du Japon, un tsunami avec des vagues de 14 mètres a submergé la centrale de Fukushima et des terres du nord-est du Japon.
Oui, donc on peut considérer comme un triple cataclysme, les vagues, le tremblement de terre et maintenant le désastre nucléaire. Le bilan humain de cette affaire ?
Eh bien, hélas, 114 000 personnes, soit la population de l'agglomération valentinoise, déplacées sur une zone de sécurité de 30 km. Hélas aussi, environ 30 000 porcs, 600 000 poulets et plus de 100 000 vaches abandonnées sur place. Tous ces animaux abattus avec consentement des propriétaires sur demande du gouvernement et contre indemnisation. Près de 20 000 travailleurs intervenant jusqu'au 31-12-2011. 1600 liquidateurs exposés à de fortes radiations. Et enfin 80 000 policiers, soldats et secouristes mobilisés.
Sciences et Avenir fait aussi le détail du bilan financier et humain de cette catastrophe.
Alors, sans y rentrer plus en détail, tout cela pour un coût de 156 milliards d'euros, sans compter les coûts des secours, déblaiements et reconstructions. Il y a aussi les territoires à décontaminer, 250 km² de territoires sacrifiés, 250 km équivalents à la distance de Lyon à Avignon, 130 000 km², c'est la taille de l'Île-de-France en cours de décontamination. C'est une zone jusqu'à 250 km autour de la centrale. Aussi, hélas, à prendre en compte le bilan sur l'alimentation et la santé, il y a une augmentation des conjonctivites, des pneumonies et des maladies de la thyroïde dues à l'iode 131. Des enfants des zones contaminées ont des pertes de poids et arrêts de croissance. Voir les résultats des analyses de la CRIRAD sur leur site crirad.org sur la combinaison des pollutions des sols, de l'air, de l'eau et de la mer et des aliments, à savoir le lait, le fromage et la viande.
Voilà un bilan fait par Sciences et Avenir qui n'est pas très reluisant. On parle des quatre réacteurs qui ont été accidentés à Fukushima. Où en est-on exactement sur ces quatre réacteurs ?
Alors, justement, sur six réacteurs de la centrale de Fukushima, quatre sont déclarés inutilisables, dont trois dont le cœur a fondu en partie. Le réacteur numéro 4 inquiète le Japon et au-delà. Dans ce réacteur détruit, il y a une piscine en étage avec 1500 bars de combustible usagé, difficile à récupérer, qui reste une menace en cas de séisme, qui fissurerait les parois de cette piscine, l'eau s'échappant. La question est, quelles vont être les réactions des bars avec l'air libre ? Alors, malgré la polémique scientifique sur cette question, décembre 2013 est la date prévue par les autorités japonaises d'enlèvement de ces barres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la vidéo qui est sur YouTube. C'est une vidéo du 8 mars 2012 du docteur Koide.
Dernière petite question, Georges. Tous les réacteurs japonais aujourd'hui sont arrêtés. Que dit cet article de Science et Avenir sur l'avenir du nucléaire au Japon ?
Depuis le 5 mai 2012, 50 réacteurs, c'est-à-dire tout le parc, ces 50 réacteurs sont à l'arrêt pour maintenance et vérification. Le Japon importe donc du pétrole et du gaz pour les centrales hydrauliques pour compenser les 30% de part du nucléaire dans la consommation électrique. Il est demandé à la population et aux entreprises d'économiser de 5 à 15%, ce sur quoi ils ont fait beaucoup d'efforts. Parce que dans l'ensemble, la population est hostile au redémarrage des réacteurs. Sauf la ville d'Oi à l'ouest du Japon, qui recevait avant 24 millions par an pour sa centrale. Cette ville a accepté le redémarrage de deux réacteurs après le succès des stress tests, malgré l'opposition des communes voisines non bénéficiaires de subventions. La décision est en attente. Et il faut noter aussi qu'il faudra 30 à 40 ans pour démanteler Fukushima, avec un coût entre 600 et 1000 milliards d'euros, et c'est bien plus que pour Tchernobyl.
Merci Georges pour ces informations.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. « Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur Granvaux.
Bonjour.
Pour débuter la série de nos interviews, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune auteur, Raphaël Granvaux, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Areva en Afrique ». Pour nos éditeurs, je précise que Areva est une multinationale française, leader mondial de la fabrication et de la vente de centrales nucléaires dans le monde. Elle vend aussi le combustible qui alimente ces centrales, l'uranium. Et je crois que votre livre raconte la recherche et l'exploitation du minerai d'uranium en Afrique par Areva et en particulier au Niger. Pourquoi avoir choisi un tel sujet et quel lien avec la politique africaine de la France depuis 50 ans, la fameuse France-Afrique ?
L'association Survie travaille maintenant depuis de longues années sur le décryptage des relations entre la France, l'État français et ses anciennes colonies, sur les aspects masqués, officieux, sur les relations de domination économique, militaire, politique que la France tente de conserver par différents procédés, et bref, par ce qu'on appelle la France-Afrique. Et quand on pense à France-Afrique, on pense essentiellement à la question du pétrole, surtout depuis l'affaire Elf, le procès Elf, qui avait mis un petit peu toutes ces affaires sur la table. Et on pense un peu moins à la question de l'uranium, et pourtant les mécanismes de domination néocoloniale qui ont été mis en place à la fin des années 50 et au début des années 1960 pour préserver les intérêts français et les intérêts pétroliers ont été exactement les mêmes en ce qui concerne la sécurisation des approvisionnements en uranium. Et à l'opposé de ça, depuis 40 ans, on nous resserre maintenant de manière extrêmement régulière un discours qui repose sur un mythe, celui de l'indépendance énergétique de la France grâce à l'énergie nucléaire civile. Et ce mythe de l'indépendance énergétique de la France, il repose sur diverses manipulations statistiques officielles, dont la principale, celle qui nous intéresse à l'association Survie, consiste à ne pas comptabiliser comme des importations énergétiques les importations d'uranium. Et on les comptabilise simplement comme des importations de matières premières ordinaires, à la différence des importations de pétrole, de gaz, ou etc. Et cette manipulation et ce mythe de l'indépendance énergétique, alors que depuis 2001, on ne produit plus d'uranium sur le sol français et que la totalité de l'uranium consommé dans les centrales est importée, et encore aujourd'hui en grande partie d'Afrique, eh bien ce mythe permet justement de passer sous silence les conditions dans lesquelles se fait cette exploitation de l'uranium par Areva au Gabon il y a quelques années et encore aujourd'hui au Niger pour un tiers à un quart de sa production, et de laisser dans l'ombre les conditions économiques, sociales, politiques qui permettent cet approvisionnement.
Oui, dans votre livre aussi, vous mettez en cause un autre mythe, le mythe d'une énergie propre. En quoi Areva au Niger est-elle responsable d'une triple catastrophe écologique, sanitaire et sociale ?
Alors, il faut savoir que l'extraction de l'uranium au Gabon et puis au Niger s'est fait dans des conditions effectivement tout à fait catastrophiques. Alors, il y a une chose qui est comparable aux autres industries extractives qui sont dans leur ensemble généralement très polluantes et assez peu soucieuses des populations environnantes, surtout quand il s'agit de multinationales étrangères, occidentales, opérant dans des pays pauvres. Mais en plus, avec l'extraction de l'uranium, il y a un danger, un risque spécifique, puisque bien évidemment, il s'agit d'une matière radioactive. Et malgré ce risque spécifique, eh bien, aucune protection supplémentaire n'est prise, et on pourrait dire presque au contraire. Ainsi, par exemple, au Niger, l'extraction de l'uranium se fait de la manière la plus simple qui soit, pour obtenir les quelques 130 000 tonnes qu'on a importées de ce pays officiellement aujourd'hui, eh bien, il a fallu traiter, concasser, traiter chimiquement plusieurs millions de tonnes de roches.
On a parlé de 40 millions de tonnes.
Oui, approximativement. Bon, c'est difficile à estimer précisément, mais en tout cas, ce qui est assez frappant quand on se rend sur place, les reporters ou les ONG qui se sont rendus sur place, c'est qu'il y a autour d'Arlit des montagnes qui n'étaient pas là originellement, qui sont des montagnes artificielles et qui sont des montagnes constituées des résidus de l'extraction uranifère. Or, dans ces résidus, précisément, on retrouve la majorité de la radioactivité naturelle et des descendants de l'uranium, puisque Areva ne prend que la part d'uranium qui lui est utile. Et laisse tous les autres composants sur place dans ces déchets. Il y a également tous les déchets chimiques qui sont utilisés pour traiter l'uranium, pour faire ce qu'on appelle l'uranate, l'oxyde d'uranium, le yellow cake qui est ensuite importé et enrichi en France pour les centrales. Et tout le reste est simplement laissé sur place, sans aucun confinement, soumis à l'érosion des vents et des intempéries, s'infiltre dans les sols, produit également une pollution de l'air par le dégagement d'un gaz radioactif qui s'appelle le radon, qui lui-même se décompose ensuite en plusieurs composants extrêmement polluants. Et les populations environnantes et les mineurs sont exposés à plusieurs sources de contamination radioactive par l'air, par les sols, par l'eau qui leur est distribuée et qui n'est pas potable, et également par la récupération de tous les matériaux et en particulier des ferrailles qui ont servi à l'extraction et qui se retrouvent sur le marché aux ferrailles d'Arlit, et compte tenu de l'extrême pauvreté de la population qui vit là, eh bien, la population récupère tous les matériaux utilisés par les mineurs pour les usages les plus quotidiens, pour construire leur maison, pour fabriquer des ustensiles de cuisine, etc. Et au risque de contamination externe de la radioactivité, se surajoutent ici encore des risques de contamination interne, parce que quand on va travailler ces métaux, les scier, les découper, etc., on peut absorber des poussières et ça renforce encore le risque. Et les premiers exposés à ce risque sanitaire sont bien évidemment les mineurs de la mine d'Areva, et d'autant plus que jusqu'à la fin des années 1990, aucune mesure de protection spécifique n'était prise. Les mineurs ont été tenus dans l'ignorance la plus totale des risques de la radioactivité, des dangers de la radioactivité. Ils allaient travailler en short, en t-shirt, ils ramenaient leur tenue de travail à la maison pour les laver. Leurs enfants étaient exposés aux poussières radioactives, etc. Et certains mineurs se sont alarmés de voir leurs camarades décédés de maladies mystérieuses dont on ne leur disait pas la source et le nom. Et il est apparu effectivement un taux assez alarmant de décès par évidemment ce qui semble être des maladies radio-induites, mais qui sont encore aujourd'hui niées par Areva. Donc une catastrophe environnementale, une catastrophe sanitaire et une catastrophe sociale, parce que d'une part cette exploitation de l'uranium a très peu profité à l'État du Niger, qui récupère, on estime, à peu près 12% simplement de la valeur de l'uranium. Encore moins aux populations qui n'ont pas vu la couleur de cet argent, et à qui on laisse une situation qui est absolument catastrophique, d'une part parce que cette exploitation de l'uranium porte atteinte aux populations qui vivent sur ces zones, en particulier les populations nomades. On prend leur territoire, on prend leur eau, puisqu'il s'agit d'une extraction extrêmement gourmande en eau et qui assèche les nappes, qui sont des nappes fossiles, qui ne se renouvellent pas. Et la ville minière d'Arlit, si aujourd'hui elle compte quelques petits milliers d'habitants qui vivent, on va dire, correctement au regard de la pauvreté environnante de l'extraction, eh bien, a agrégé des bidonvilles de populations qui vivent de manière dérivée de cette exploitation, mais qui ne profitent pas plus que ça. Et dans quelques années, 10 ans, 15 ans, lorsqu'il n'y aura plus d'extraction parce que les gisements auront été épuisés, eh bien, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus aucune source de subsistance pour ces populations, alors qu'il s'agit d'une ville de plusieurs dizaines de millions d'habitants, de milliers, pardon, d'habitants en plein désert. Et on se demande aujourd'hui de quoi vivront ces personnes, puisqu'il n'y a aucun projet de reconversion prévu.
Alors, ce que vous nous décrivez est absolument terrible, terrifiant même, mais la première question qu'on se pose, comment le gouvernement du Niger accepte-t-il que ces populations soient traitées de la sorte ?
Alors, quand on regarde historiquement, on ne peut pas dire le gouvernement du Niger, puisqu'il y en a eu plusieurs, mais malheureusement, les relations avec Areva, ou anciennement la COGEMA, et l'État français ont été sur une longue durée assez semblables, et pour une raison simple, c'est que cette extraction de l'uranium, non contente d'être polluante d'un point de vue environnemental, a été également source d'un autre type de pollution qui est plus spécifiquement étudiée par l'association Survie dans laquelle je milite, qui est la pollution politique qu'a engendré cette extraction. Pollution politique parce que la sécurisation de ces gisements d'uranium par Areva s'est faite au prix d'ingérence incessante de l'État français sur le Gabon et le Niger, avec des processus, je le disais au début, qui sont similaires à ceux qu'on a connus pour sécuriser les approvisionnements de pétrole, c'est-à-dire qu'on a sponsorisé des coups d'État, on a placé des hommes dévoués aux intérêts français plutôt qu'à ceux de leur population à la tête de ces États, et le Niger a ainsi connu, à partir de 1974, un long règne militaire, le précédent pouvoir ayant eu le tort de vouloir renégocier le prix de l'uranium avec la France, et il a payé cette volonté de son siège. Il a été renversé par des militaires dévoués à la cause française, formés dans l'armée coloniale française. Et cet état de fait s'est prolongé même jusqu'à assez récemment, puisque dans les années 1990, après que le peuple nigérien ait recouvré sa souveraineté et ait réussi à imposer par des mobilisations extrêmement importantes un nouveau régime civil, eh bien, l'expérience démocratique aura été de très court terme, et en 1996, on va connaître un nouveau coup d'État militaire directement sponsorisé par les réseaux Focar. C'est l'époque où Focar est rappelé à l'Élysée par Chirac. Et le peuple nigérien est à nouveau privé de sa souveraineté politique en même temps que économique et de son sous-sol. Et récemment encore, lorsqu'il y a eu, il y a quelques années, un bras de fer entre le président Mamadou Tandja et Areva, toujours autour de la question de la revalorisation du prix de l'uranium, eh bien, on a assisté encore à ce balai incessant d'envoi d'émissaires officiels et officieux, de personnalités plus ou moins douteuses, pour tenter de protéger les intérêts d'Areva. Et jusqu'à aujourd'hui, l'ingérence française dans ce pays n'a jamais cessé.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que pour assurer toute la filière nucléaire et toute électrique en France, pour notre confort quotidien, Areva en Afrique pille les richesses du sous-sol, finance des coups d'État, en quelque sorte, des coups d'État militaires, pour maintenir justement son impact dans ces pays et préserver cette filière.
Mais quand on considère la faible part, effectivement, du revenu extrait de la production uranifère qui revient à l'État nigérien, quand on considère les conditions politiques dans lesquelles s'est faite pendant 40 ans cette extraction, effectivement, le terme qui convient le mieux, c'est celui de pillage.
interroger sur ce qui se passe actuellement dans cette région, Niger, Mali, Sahel, avec les troubles très, très importants qui viennent d'éclater dans le nord du Mali, ces fameux LACMI qui commencent à s'implanter, avec des armes qui arrivent de Libye. Est-ce qu'il n'y a pas des risques, effectivement, concernant nos approvisionnements d'uranium, avec tous ces troubles, toutes ces guerres, et est-ce que Areva est directement concernée? Je crois bien que oui, puisqu'il y a même quelques salariés d'Areva qui ont été enlevés, qui sont encore des otages, malheureusement. Quel est votre sentiment par rapport à tout ça? Est-ce que c'est inquiétant ou...
Il y a plusieurs questions qui s'entremêlent. Sur la question des otages, pour commencer par celle-là, chronologiquement, qui ont été enlevés par Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, il y a quelques mois, quelques années maintenant, il y avait effectivement une volonté de la part d'ACMI de frapper la France au cœur de ses intérêts stratégiques. Et par l'enlèvement de ces otages, ce qui s'est traduit d'ailleurs d'une part par une volonté de remilitarisation de la région de la part de la France et des États-Unis. Il y a une sorte de concurrence et de complicité à ce niveau-là entre la France et les États-Unis pour un quadrillage sécuritaire de toute la zone sahélienne. Et les enlèvements, la prise d'otages a été un prétexte pour la France pour renforcer sa présence militaire que les autorités nigériennes jusque-là traînaient des pieds à voir renforcée. Et puis d'autre part, lorsqu'il y a eu la seconde prise d'otages début 2010 avec deux jeunes gens enlevés dans la capitale de Niamey, il y a eu une intervention militaire française, on peut dire assez forte, pour ne pas dire brutale, dont le nom était d'ailleurs assez révélateur parce qu'il s'agissait d'une opération baptisée Archange foudroyant.
Ah oui, et c'est l'histoire de ce malheureux garçon qui était parti se marier au
c'est
Niger.
C'est ça, tout à fait, qui pour le coup n'avait rien à voir avec les intérêts d'Areva sur place, mais il y a eu une volonté de démonstration de force de la part des autorités politiques et militaires françaises pour montrer qu'on ne touche pas impunément à ses intérêts sur la zone, et l'armée française est intervenue tout simplement en mitraillant les preneurs d'otages et bien entendu les otages avec eux, et ceux-ci sont décédés dans l'opération. Et très visiblement, ils ont été sacrifiés. En tout cas, c'est les conclusions qu'en tire la famille et l'avocat de la famille. Et puis, à côté de ça, il y a effectivement d'autres troubles dans les régions voisines. Alors, on ne peut pas exclure qu'il y ait un lien avec la question de l'uranium, parce que le sous-sol du nord du Mali est effectivement potentiellement riche en uranium et en d'autres ressources énergétiques, notamment des hydrocarbures. Mais on ne peut pas non plus affirmer aujourd'hui, peut-être on le pourra demain, je n'en sais rien, qu'il y a un lien direct avec les intérêts d'Areva. Il y a une exploration uranifère qui a débuté au Mali dans la zone de Faléa et qui est contestée par les ONG et les populations locales, mais qui est menée par une entreprise junior canadienne qui s'appelle Rock Gates. Mais il n'est pas exclu non plus, et selon certaines confidences diplomatiques dont je ne peux pas donner la source pour l'instant, il n'est pas exclu que Areva soit en embuscade derrière pour récupérer le gisement si celui-ci s'avère rentable. Mais pour revenir à la question des revendications séparatistes des Touaregs dans le nord Niger, et puis du coup d'État militaire qui a eu lieu récemment, il n'y a pas de lien direct prouvé avec les intérêts miniers d'Areva sur place. Il n'y a pour l'instant pas d'indice suffisamment fort qui permet d'établir un lien. Il y a surtout, à mon avis, un lien direct avec les conséquences de l'intervention de l'OTAN et de la France en Libye, puisque les Touaregs qui servaient pour Kadhafi se sont enfuis visiblement avec l'accord de la France et de l'OTAN en emportant armes et bagages. Et bien entendu, ça a eu des conséquences que l'on sait maintenant sur le nord du Mali, puisque cette puissance militaire leur a permis de réactiver les revendications indépendantistes et de prendre possession du nord du territoire.
D'accord. Il y a aussi un autre aspect dans votre livre. Vous parlez d'une nouvelle société achetée par Areva, Uramine, et qui semblerait être une société junior, vous avez évoqué ça tout à l'heure, qui a fait des prospections dans différents pays, comme la Namibie et autres. Et il y a une grande polémique sur ce rachat. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ?
Oui, alors la polémique est un petit peu éteinte ou en sommeil maintenant, même s'il y a des articles qui reparaissent de temps à autre dans la presse. Il y en a un dans le Canard enchaîné de cette semaine. Mais effectivement, le livre revient sur l'origine de ce scandale, de cette affaire Uramine, du nom de l'entreprise qui a racheté Areva. puisque dans les années 2007, à un moment où les cours de l'uranium flambent sur les marchés internationaux, à une période où Areva a décidé de doubler sa production d'uranium dans le monde, eh bien, elle tente de diversifier ses approvisionnements, et particulièrement en Afrique, où l'exploitation est toujours très rentable compte tenu du faible coût et des faibles mesures de protection que l'on prend. Et elle s'intéresse à une entreprise canadienne, effectivement une junior qui fait simplement de l'exploration, qui est immatriculée dans un paradis fiscal, qui est cotée à la bourse de Toronto, le paradis fiscal des entreprises minières sur la planète. Et Areva va en faire l'acquisition parce que cette entreprise possède des gisements essentiellement dans trois pays, en Namibie, en Afrique du Sud et puis en Centrafrique. Et elle va en faire l'acquisition dans des conditions qui paraissent aujourd'hui assez suspectes. À l'époque où Areva s'intéresse à l'entreprise, celle-ci est cotée aux alentours de 300 millions d'euros. Et 6 mois plus tard, Areva va débourser 1,8 milliard d'euros pour en faire l'acquisition. Et si on suit les commentaires des analystes financiers autour de cette transaction, eh bien, il semblerait qu'Areva n'ait pris aucune précaution élémentaire en la matière.
On a parlé aussi de délit d'initié.
Voilà, donc il est tout à fait possible qu'il y ait eu un délit d'initié si on considère la flambée des cours spectaculaire qui a eu lieu juste avant le rachat. La transaction s'est en fait à l'ombre des paradis fiscaux. On ne saura vraisemblablement jamais la totalité de la liste des bénéficiaires. Il n'est pas interdit de penser qu'il y a eu des complicités internes à Areva autour de cette acquisition qui en plus a laissé un trou donc de près d'1,8 milliard, même plus 2 milliards aujourd'hui de dépréciation d'actifs dans la trésorerie du groupe parce que les gisements achetés se sont révélés bien moins prometteurs et beaucoup plus difficiles à exploiter que ce qui avait été promis par les vendeurs, et Areva à l'époque n'avait pas fait les expertises nécessaires pour vérifier la conformité de ces gisements. Et ce sur quoi l'association Survie essaye d'attirer l'attention, c'est que, alors peut-être effectivement il y a eu un scandale de type financier, peut-être effectivement il y a eu enrichissement de quelques personnes de manière un petit peu frauduleuse, mais qu'il y a un autre scandale qui n'a pas été beaucoup traité par la presse, c'est le fait que aujourd'hui ces gisements sont gelés, sont en suspens, malgré des investissements colossaux opérés par Areva, hein, près d'un milliard d'euros en Namibie pour un gisement qui sans doute ne sera jamais exploité, mais par exemple en Centrafrique ou en Afrique du Sud, il suffirait que dans quelques mois, quelques années, les cours de l'uranium remontent aux alentours de 70 dollars la livre pour que l'exploitation redevienne rentable. Et si on considère ce qui se passe encore aujourd'hui au Niger, eh bien, on peut penser que cette exploitation se fera exactement dans les mêmes conditions, avec aucune mesure de protection à l'égard de l'environnement ou des personnes supplémentaires. Et le véritable scandale, c'est celui-là, c'est que c'est la catastrophe, la triple catastrophe qui a eu lieu au Gabon, qui a eu lieu au Niger, eh bien, elle va se renouveler dans ces pays-là dès que Areva jugera que les gisements sont à nouveau rentables.
D'accord. Alors, il y a quand même un signe encourageant, je dirais, par rapport à cette catastrophe, c'est qu'il semblerait que sur place maintenant, les populations commencent à bouger. Et j'ai relevé dans votre livre une anecdote, c'est qu'en 2006, Areva et sa patronne, Anne Lauvergeon, avaient décidé d'organiser la fête de la 100 000e tonne extraite. Et malheureusement, cette fête a dû être annulée parce qu'il y a eu 5 000 manifestants qui se sont présentés ce jour-là.
Alors, il y a au Niger effectivement une société civile extrêmement dynamique et autour de la zone d'extraction de l'uranium, d'arlite, il y a également des mobilisations fortes et cette intervention voulue par Areva, cette fête voulue par Areva a dû être annulée sous la pression populaire, la population locale considérant ces festivités comme une véritable provocation alors que les mineurs, les associations locales, la population déployer un certain nombre de revendications autour de mesures de sécurité supplémentaires, autour d'une meilleure redistribution des revenus de l'uranium, autour d'une plus grande transparence dans la gestion, dans la distribution de ces revenus. Autour des questions que je développais tout à l'heure d'ingérence politique de la France dans le pays. Et effectivement, la ville d'Arlite a connu une mobilisation de plusieurs milliers de personnes dans les rues à la place des festivités prévues par Areva. Et il y a aujourd'hui dans ce pays plusieurs associations, plusieurs syndicats qui travaillent sur ces questions du nucléaire, soit sur les aspects financiers, soit sur les aspects environnementaux ou de protection sanitaire.
Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Comment peut-on les soutenir ?
Alors il existe aujourd'hui un collectif auquel participe l'association Survie qui s'appelle Areva ne fera pas la loi au Niger et qui essaye justement de servir de porte-voix aux revendications de ces mouvements-là qui sont parfois un petit peu étouffés dans leur pays et de travailler avec eux pour populariser leurs revendications. Et il faut bien rappeler que ce sont des revendications qui concernent directement les citoyens français dans la mesure où Areva, qui opère sur place par le biais de ses deux filiales, est une entreprise encore aujourd'hui à capitaux très majoritairement public, à plus de 85%. Et que donc l'État français est directement responsable de ce qui se passe là-bas, et que en tant que citoyen français, bien évidemment, nous sommes en droit de réclamer des comptes à nos gouvernements sur ce sujet.
Merci beaucoup. Alors j'aurais une dernière question à vous poser, c'est comment en finir avec le système Areva ?
Alors c'est une question difficile à laquelle le livre ne prétend pas apporter de réponse simple. À titre personnel, je pense que la meilleure solution pour en finir avec l'extraction de l'uranium, c'est bien entendu de sortir du nucléaire.
Bien
Mais
entendu.
Cela dit, bien entendu. Il faut considérer que c'est une question qui ne va pas de soi dans les pays où Areva a une exploitation. Quand je parlais des mouvements de résistance, de mobilisation au Niger, tous ne sont pas, loin s'en faut, sur la question de la sortie du nucléaire, certains réclamant simplement une meilleure utilisation des fonds fournis par Areva ou une revalorisation du prix payé par Areva sur place, une meilleure gestion des richesses nationales. Et d'autres mouvements sont par contre effectivement sur des préoccupations plus environnementales ou sanitaires, mais c'est des débats justement qui existent et que l'on mène dans le cadre du collectif Areva ne fera pas la loi au Niger.
D'accord, puisqu'en effet l'énergie nucléaire ne représente que 15% quand même de notre approvisionnement en énergie, on pourrait peut-être envisager d'autres choses pour fabriquer l'électricité en France et donc effectivement en finir avec le pillage de ces ressources et la maltraitance de ces populations.
Et on peut penser parallèlement que ces pays aujourd'hui qui vivent d'une rente, qui vivent en partie d'une rente minière, auraient tout intérêt à développer d'autres sources de développement énergétique.
Bien entendu.
Avec des ressources qu'ils ont gratuitement sur place, le vent, le soleil, etc. Et pour un développement plus auto-centré et non pas fondé sur une exportation de leurs richesses.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Granvaux, et j'espère que Survie va pouvoir continuer à mettre le projecteur sur ces problèmes qui sont très, très importants.
Merci beaucoup.
Et merci aussi à Alain Vol qui, à l'occasion, s'est plongé donc, dans ce livre dont je rappelle le titre, Areva en Afrique, une face cachée du nucléaire français, publié aux éditions Agone par l'association Survie dans la collection Les Dossiers Noirs. Les dossiers noirs qui exposent les mécanismes de la politique de la France en Afrique et en dénoncent les dérives les plus scandaleuses, qu'elles soient le fait de responsables officiels ou de multiples groupes et acteurs, comme on vient de voir, officieux ou clandestins. Si vous souhaitez parfaire votre connaissance de la politique française en Afrique, vous trouverez les liens sur l'association Survie et les dossiers noirs sur notre site www.sdn26-07.org. Raphaël a en outre publié dans les dossiers noirs et pour l'association Survie toujours de nombreux articles et dossiers dont un tout particulièrement passionnant, on vient d'en parler un tout petit peu, sur le scandale de l'affaire Uramine, du nom de cette société canadienne avalée par Areva en 2007 pour conquérir de nouveaux gisements en Afrique. Affaire qui n'en est qu'à ses débuts, les plaintes pour espionnage de sa vie privée déposées par Anne Lauvergeon, ex-PDG d'Areva, devraient dans les mois à venir remettre sur le devant de la scène ce qui pourrait s'avérer comme un des plus gros scandales et une des plus belles escroqueries aux contribuables du quinquennat Sarkozy. Plus de 2 milliards d'euros pour l'instant. Cette première émission d'Atomic Mac a été réalisée dans les studios de Radio Méga qui nous hébergent. Nous en profitons pour les remercier de leur accueil et de leur aide technique, autant technique d'ailleurs que morale. Georges et Agnès ont présenté les billets d'introduction, tandis qu'Alain Vol nous a préparé l'entretien avec Raphaël Granvaux.
Et la voix qui a guidé toute cette émission est la voix de Dominique Malvaux de Sortir du nucléaire.
Merci Alain. Atomic Mac prépare de nouvelles émissions qui deviendront mensuelles à côté du mois de septembre, j'espère que vous serez nombreux à nous écouter, dont une sera consacrée à des réponses à tout ce que vous voulez savoir sur le nucléaire sans jamais avoir osé le demander. Adultes ou enfants, transmettez vos interrogations sur le répondeur gratuit au 08 05 69 67 58. Ce numéro sera présent également sur notre site. Des scientifiques et des militants et militantes de Sortir du nucléaire vous répondront. Durant tout l'été, vous pouvez retrouver SDN 2607 lors des festivals et marchés de la Drôme et de l'Ardèche. le 22 juillet, à 11h, une grande chaîne humaine parcourra la ville d'Avignon au départ du Palais des Papes, suivie d'un pique-nique et bien sûr de musique sur le pont d'Avignon. Il faut de la musique. Cette initiative est le premier chaînon de multiples chaînes humaines qui vont se dérouler dans toute la France jusqu'au 9 mars 2013, date d'un grand rassemblement national et même international qui devrait partir de la place de la Bastille à Paris jusqu'à la centrale nucléaire de Nogent en région parisienne. Cette initiative n'est pas encore complètement fixée, mais nous vous annoncerons au fur et à mesure des émissions d'Atomic Mac et sur le réseau de sortir du nucléaire 2607 l'avancée de ce projet de grande manifestation nationale contre le nucléaire au mois de mars, à l'occasion effectivement du deuxième anniversaire de Fukushima. Notre émission va se terminer. Vous avez écouté et on espère apprécier Boris Vian et la Java de la bombe atomique. Comment commencer une émission sans cette chanson? Et Myriam Makeba, icône de la chanson africaine dans Pata Pata. Et nous vous quittons avec Ali Farka Touré, chanteur malien, décédé en mars 2006, pas de l'uranium, mais de sa belle mort, qui disait « L'Afrique est ma source d'inspiration, mon repère, mon bonheur. » À toi, Ali Farka Touré.
Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso.